Chapitre 5 s'intitule encore quelques hauts et bas de la foi d'Abraham. Et nous allons donc à la suite d'Abraham nous promener à travers tous ces chapitres, chapitre 16 au chapitre 21, c'est-à-dire aller de Hébron, la montagne où il se trouvait, près de l'autel, jusqu'au pied du mont Morija. Mais pour aller de l'un à l'autre, il peut y avoir des routes directes, mais il peut y avoir aussi des routes qui montent et qui descendent. C'est ce qu'a fait Abraham, le père des croyants, et nous allons essayer de le suivre et de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi il a mis tant de temps, bien des années, entre cette étape du chapitre 15. C'était un sommet ce matin. Et nous sommes presque malheureux de redescendre si vite avec le chapitre 16. Mais la grâce de Dieu qui est souveraine est toujours là. Et espérons que nous en ferons encore nous-mêmes personnellement l'expérience. Chapitre 16, nous lirons donc les 9 premiers versets. Et Saraï, la femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne et son nom était Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va, je te prie vers ma servante. Peut-être me bâtirai-je une maison par elle. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. Et Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, après qu'Abraham eut demeuré 10 ans au pays de Canaan, et la donna à Abraham, son mari, pour femme. Et il vint vers Agar et elle conçut. Et elle vit qu'elle avait conçu et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Saraï dit à Abraham, « Le tort qui m'est fait sur toi. Moi, je t'ai donné ma servante dans ton sein, et elle voit qu'elle a conçu, et je suis méprisée à ses yeux. L'Éternel jugera entre moi et toi. » Et Abraham dit à Saraï, « Voici, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il sera bon à tes yeux. » Et Saraï la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva, près d'une fontaine d'eau, dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Et elle dit, « Je m'enfuis de devant Saraï, ma maîtresse. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Alors encore le verset suivant, l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta semence et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. » Puis une promesse qui suit. Nous avons donc dans ce chapitre 16, 3 personnes. Il y en a deux que nous connaissons déjà depuis un moment, Abraham et Saraï, sa femme. Il y en a une troisième que jusqu'ici nous ne connaissions pas. C'est Agar. C'est là qu'on la découvre, dans ce chapitre 16. Abraham, au chapitre 15, nous l'avons vu ce matin, a eu des révélations sur l'héritier. Pas Éliézer. L'héritier sortira de tes entrailles. Mais qui sera la mère ? Son nom n'est pas évoqué dans ce chapitre 15, par lequel nous avons terminé ce matin. Et Abraham s'est inquiété, il a posé des questions concernant l'héritage, le territoire, il n'a pas posé de problème concernant qui donnerait naissance à cet enfant. C'est un peu étonnant. Abraham, après cette révélation, croit Dieu, il a donc la foi pour qu'une promesse qui est faite par Dieu puisse être reçue. Il y a 3 conditions, 3 qualités. La première, c'est la foi. Abraham, là, il croit Dieu. La deuxième, c'est l'espérance. L'espérance pendant l'attente de la réalisation de la promesse. C'est l'espérance permet d'anticiper la réalisation. Et l'espérance, Abraham, là, c'est Romains 4 qui nous le dit. Il rend gloire à Dieu. Il a la certitude que ce que Dieu a dit, il le fera. Il y a une troisième qualité nécessaire. C'est la patience. la patience qui attend l'heure de Dieu. Et c'est là qu'Abraham va choper. Au chapitre 13, donc, dans les versets que nous avons lus, sa foi chancelle. Il est surpris par une tentation de cette nature, celle que lui propose Sarah. Elle est pour lui quelque chose d'inattendu. Et lui qui a su répondre avec fidélité à la tentation du roi de Sodome, va succomber à la tentation proposée par Sarah. Et il accepte que l'enfant de l'héritage, l'enfant de la promesse, soit celui d'une mère porteuse, d'une fausse mère. Oh, ne le blâmons pas. Ne le blâmons pas pour deux raisons. La polygamie existait, plus ou moins dans ce temps-là, d'une part. D'autre part, les mères porteuses, c'est fait courant aujourd'hui, nous le savons bien. Deuxième personnage, c'est Sarah. Peut-être Sarah a-t-elle été poursuivie par la faute commise en Égypte, dans la demeure du Pharaon. Quand, en quelque sorte, Abraham, son mari, l'a livrée en échange de troupeaux, d'argent, d'or. Elle a attendu pendant 10 ans. 10 ans se sont écoulés depuis là, nous l'avons lu. Et elle commence à trouver l'épreuve bien longue. Elle clame là, nous l'avons vu, son amertume en disant « C'est Dieu qui m'a empêché ». Mais elle sent que Dieu fait peser sur elle. Elle a en tout cas cette impression, fait peser sur elle un fardeau trop lourd. Et tout va basculer. Elle pense, la nature chez Abraham a peut-être encore quelques ressources, mais il faut faire vite. Il sera bientôt trop tard. Alors, va vers ma servante, peut-être me bâtirai-je une maison par elle. Mauvaise conseillère, Abraham écouta la voix de Saraï. Il y aura aussi, dans le livre de Job, une épouse qui sera mauvaise conseillère. Maudit Dieu aimeur. Mais ce croyant souffrant restera fidèle dans son épreuve et pardonnera à sa femme, car elle souffre autant que lui. Alors voyons un peu le couple, Abraham-Sara, depuis ces dernières années. Quelle communion ont-ils eu entre eux depuis le début du voyage, qui dure maintenant depuis 10 ans? N'a-t-elle pas un peu marché dans le sillage de son mari, l'homme de foi? Que se sont-ils dit après cette faute de l'Égypte? De cette expérience malheureuse, en ont-ils seulement parlé l'un à l'autre? Lui, pour dire à sa femme, c'est ma faute, et lui aider ainsi à supporter cette stérilité qui se poursuit. Dieu ne répond pas encore. Et d'autre part, nous avons vu dans ce chapitre 15 la révélation extraordinaire que Dieu a fait à Abraham. Cet enfant de la promesse, il sera ta propre semence, tu seras son vrai père. Que lui a-t-il dit de cela? Le nom de Sarah n'était pas mentionné dans ce chapitre 15, mais nous pouvons penser que peut-être l'attitude de Sarah plus tard nous montre que peut-être Abraham n'a-t-il même pas mentionné la révélation à Sarah. Qu'il va être père de l'héritier. Et c'est ainsi que depuis le chapitre 12 et cette descente en Égypte, le nom de Saraï n'avait plus été prononcé. On le retrouve au chapitre 16 dans ce que nous avons lu. Il y a Agar, et nous l'avons dit, c'est là aussi que nous découvrons Agar. Depuis 10 ans, Agar est dans la maison d'un prophète. Au bout de 10 ans dans la maison d'un prophète, elle ne connaît pas Dieu. Quelle est la responsabilité d'Abraham? Quelle est la responsabilité de sa maîtresse, Sarah. Pourtant, Sarah était une femme soumise à son mari. C'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Mais a-t-elle parlé vraiment du Dieu Tout-Puissant à Agar? Il y a une maison dans le Nouveau Testament où l'on portait haut son drapeau, c'était celle de Corneille. Et toute la maison de Corneille savait qui était Corneille. Dans la maison d'Abraham, il semble que, ou Agar n'est pas bien compris, ou elle n'ait pas été bien informée. Mais la parole se tait là-dessus. Dès la conception, la voilà qui devient hautaine et méprisante pour Sarah, nous l'avons vu. Sarah perd alors toute sa dignité d'épouse, de femme de patriarche. Et, parce qu'elle ne peut pas supporter cette situation, parce que la jalousie a envahi son cœur, elle va maltraiter Agar pour s'en débarrasser. Agar va s'enfuir. Alors, quelques considérations sur ce couple après la conception d'Agar. Nous l'avions vu avant, une ou deux pensées après. L'amour-propre de Sarah a été blessé par cette conception de Sarah et l'attitude hautaine de sa servante. Et voilà que c'est la tempête dans un couple de croyants. Oh, quel est celui de nos couples qui, hélas, n'a pas connu un moment la tempête. Un couple donné comme modèle, dont lui est dit père des croyants et elle mère des croyants, et c'est vrai, fini, ma princesse, fini, mon seigneur. Toutes ces scènes sont peu glorieuses. Sarah, le tort qui m'est fait est sur toi. Et c'est l'Éternel qui jugera entre moi et toi. Première référence qu'elle fait à Dieu. Comment le connaît-elle vraiment? Que lui en a dit Abraham? Pour Abraham, un peu de lâcheté. Pour acheter la paix du ménage, il livre la servante à sa maîtresse, qui va, comme nous l'avons vu, la maltraiter. Voici ta servante. Je la place entre tes mains. Fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Voilà comment parle ce couple de croyants. Elle aura vite fait de s'en débarrasser, Sarah. Elle le veut à tout prix. Comme toute la question de la postérité, soudain, est devenu un petit et un lointain problème à cause de cette dispute de famille. Il nous arrive, hélas, d'oublier et d'abandonner quelquefois les problèmes essentiels pour des disputes personnelles. Voilà ce qui s'est passé chez Abraham et chez Sarah. Il aurait fallu une double foi constante pendant 10 ans. Et les problèmes non réglés auraient peut-être été réglés par la grâce de Dieu. Une double foi dans la prière pour cette stérilité qui se prolongeait. Une double foi pour la confession de la faute en Égypte. Et ceci aurait peut-être moins pesé sur le cœur de Sarah. Le partage aussi des révélations si nombreuses que Dieu avait fait à Abraham. Qu'en a-t-il dit? Ils n'ont pas su communiquer, ils n'ont pas su partager. C'est une grande leçon pour nous. Enfin, Dieu et Agar. Ce sont donc les derniers versets que nous avons lus. Agar fuit vers le midi, vers Shur, vers le désert. Vers le désert, oui, mais après le désert, c'est l'Égypte, le seul monde qu'elle connaît et dans lequel elle veut retourner. Et voilà que, près d'une fontaine, où elle s'est assise, désolée et pleurant, l'ange de l'Éternel trouve cette pauvre servante enceinte et abandonnée. Et c'est la double question. Mais Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Va-t-elle dire, je viens de la maison d'un patriarche. Va-t-elle dire, je vais vers mon Égypte natale? Non, et c'est très beau. Elle va confesser avec humiliation ce qu'elle a fait à sa maîtresse. Et ceci est très beau. Alors l'ange va lui dire, retourne et humilie-toi. Et elle le fera. Et cette merveilleuse révélation divine faite là, au bord de ce puits, elle annonce que, étant enceinte, elle va avoir un fils. Que l'ange de l'Éternel lui propose un nom pour ce fils, Ismaël, Dieu a entendu, fait qu'elle, à son tour, va donner le nom à ce puits, Berla Kairoi, puits du vivant qui se révèle ou qui voit. Elle a compris là, elle a saisi là, que le Dieu qui entend, ce sera le nom de son fils, est aussi le Dieu qui voit et qui a vu cette pauvre âme en détresse et qui lui a répondu et qui a fait du bien à son cœur. Elle retournera, elle s'humiliera et il semble qu'elle gardera la réserve qui convient pendant 14 années. En conclusion, nous la trouvons sur cette période-là dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, dont je voudrais vous lire 2 versets. Nous venons de voir le drame de l'impatience dans un couple et le drame de la tentation, tentation de la chair. Et nous lisons avec étonnement Hébreux 6, verset 12, « Soyez imitateurs de ceux qui par la foi et par la patience hérite ce qui avait été promis par la foi et par la patience. » Verset 15, « Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. » Dieu, par la croix de Christ, a effacé la tâche de la séduction et de l'impatience. Chapitre 17, la promesse d'Isaac. Nous lisons donc quelques versets. Je vous propose du premier verset. Abraham était âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face et Dieu parla avec lui disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai me fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. » Et c'est le renouvellement donc de l'alliance que Dieu avait faite, et la circoncision, qui en sera le signe de la mise à part, de la séparation. Verset 15. Et Dieu dit à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais Sarah sera son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face et rit, et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme alliance perpétuelle pour sa semence après lui. » Nous laisserons de côté 2 choses, c'est-à-dire la nouvelle promesse faite et l'alliance et la circoncision, pour nous arrêter surtout à cette rencontre de Dieu avec Abraham et le changement des 2 noms. Pendant 14 ans, après cet épisode du chapitre 16, cette sombre journée, Dieu se tait. Dieu se tait. Mais dans le foyer, D'Abraham, on a retrouvé la paix intérieure. Agar a repris sa place de servante sans murmure. Le petit Ismaël grandit dans la maison. Sarah est de nouveau la femme soumise à son mari et qui lui redit Seigneur. Voilà la cinquième promesse. Dieu rompt le silence. Mais cette promesse, nous la verrons peut-être dans l'entretien, mais pas ici. Cette promesse s'accompagne de deux événements qui montrent que l'on franchit dans ce chapitre 17 une étape nouvelle. Abraham et Saraï sont anoblis et Sarah sera mère. Deux grands événements. Abraham et Saraï anoblis. Ce n'est plus Abraham, père élevé, mais Abraham, père d'une multitude. Ce n'est pas un très grand changement d'identité. Pour Jacob, c'est le supplanteur qui devient prince. Pour Pierre, c'est Simon, fils de pêcheur, qui devient Pierre, une pierre dans l'édifice. Pour Abraham, c'est simplement Abraham qui devient Abraham. Peu de changements d'identité. Mais celui qui est père élevé au-dessus de sa famille, qui naîtra donc de lui-même, devient père d'une multitude, c'est-à-dire père de toute la famille de la foi, de tous les hommes et les femmes de foi du monde entier et dans tous les temps, jusqu'au retour, nous le savons, de notre Seigneur et au-delà. Saraï, nous l'avons vu, c'était ma princesse. On peut dire que dans Saraï, le yol terminal hébraïque est donc supprimé et elle devient Sarah. Le oil qui terminait était comme un pronom possessif, ma. Ma princesse, ma dame. Mais j'aime aussi ce qui nous est dit dans notre note, celle qui lutte. Car jusque-là, elle a bien été celle qui a lutté et qui a lutté bien seule. Et qui a lutté, peut-être souvent sans son mari, et en tout cas sans Dieu. Elle devient princesse. Ah, quel beau nom va pouvoir lui dire maintenant Abraham. Deuxième événement, Sarah sera mère. C'est le verset 16. Et intervient alors tout à la fois l'adoration d'Abraham, qui se courbe devant Dieu, qu'il révère. Donc un sentiment d'adoration et ce rire. Mais je laisse ces trois rires que nous allons voir pour les traiter les trois ensemble. Mais alors il y a aussi cette intervention d'Abraham. Malgré toute la reconnaissance du don qui va lui être fait et de ce qui va être fait à Sarah, il accepte l'offre de Dieu. Mais le voilà qui est rempli de crainte. Oh, mais qu'Ismaël vive au moins. Et dans cette supplique d'Abraham, nous pouvons voir plusieurs choses. Les fibres du cœur d'Abraham sont atteintes. Mais, ô Dieu, ta grâce a été jusqu'ici si grande de m'avoir donné Ismaël. Et d'autre part, ma chair est devenue si faible. Et celle de Sarah est morte. Le sein d'Abraham est mort maintenant. Alors je ne comprends pas. Et puis, tu m'as dit, un fils né de Sarah. Mais alors, c'est la condamnation d'Ismaël, pour toujours. Et je l'aime. Réponse de Dieu, il vivra. Mais dans Isaac, tu auras encore beaucoup plus. Et avec lui, j'établirai, verset 19, une alliance perpétuelle. Comme les mots grandissent et comme tout s'élargit. Mais Ismaël vivra. Élargis ton cœur, Abraham. Les deux coexisteront. Je te montrerai un jour comment. Et Dieu monte. C'est la fin de ce paragraphe, verset 22. Ayant achevé de parler avec lui, Dieu monta d'auprès d'Abraham. Que c'est majestueux. Dieu vient de faire une déclaration extraordinaire et maintenant il s'élève sur son trône. C'est bien le Dieu de gloire qu'Abraham vient de retrouver. Chapitre 18. La visite de l'Éternel et des anges. Nous lirons les 15 premiers versets. L'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre, et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais ainsi, comme tu l'as dit. » Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah, et dit, « Prends vite trois mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. » Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux. Et il se tint auprès d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il dit, « Voici dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, « Étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. » Et Sarah le nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit, « Non, car tu as ri. » Nous avons vu que trois voyageurs s'approchent, mais que Abraham ne parle qu'à un seul. Il sent qu'il faut se prosterner devant lui et à celui-là dire « Seigneur ». Il y a là l'Éternel et deux anges. Et de temps en temps, c'est « il » au pluriel, et de temps en temps, c'est « il ». Mais dès le début, Abraham a discerné la différence. C'est un croyant intelligent. Quel empressement! Nous ne détaillons pas. Le lavage des pieds, pour commencer. Et ceci nous montre que le lavage des pieds, ce premier lavage des pieds que nous trouvons dans la parole, est essentiellement déjà un rafraîchissement et un service d'amour. On parle souvent de la souillure qui est enlevée ainsi, et c'est vrai, mais c'est déjà un service d'amour et un rafraîchissement apporté à son hôte. Sarah est à sa place dans la tente. Abraham se hâte et sert le repas. Que cette scène est remarquable. Dieu avait marché autrefois avec Enoch, mais ici Dieu s'arrête sur ce petit coin de terre pour un petit moment, pour partager le repas de l'homme de Dieu. Que cette scène est belle. Et soudain, au cours du repas, une question est posée. Mais Sarah, où est-elle? Elle est dans la tente. Non. Je veux dire, où en est-elle? C'est là le sens de ma question. Je t'ai bien déclaré qu'elle serait mère il n'y a pas longtemps. Que lui en as-tu dit? Comment avez-vous partagé ensemble cette nouvelle? Lui as-tu dit aussi que je suis le Dieu Tout-Puissant? Je sais que son sein est mort, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Et celui qui intervient, Dieu Tout-Puissant, attend l'heure des impossibilités humaines pour se révéler pleinement. C'est pour nous cela aussi. Écoute, elle est dans la tente, que veux-tu? C'est une femme, après tout. et c'est la répétition à voix haute par celui qui lui parle, pour que Sarah soit bien informée de ce que Abraham peut-être ne lui a pas dit. Il l'avait gardé pour lui. Alors intervient le rire de Sarah. Nous le verrons plus loin. Et après le rire, c'est la crainte de Dieu. Une crainte salutaire. Et puis, c'est ce que nous lisons en Hébreux 11, après cette crainte salutaire. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, car elle estima fidèle celui qui avait promis. Alors on comprend mieux le but de cette visite. C'était accorder les pas de Sarah, l'épouse, sur les pas du patriarche. C'était, en quelque sorte, remettre la main de cette mère des croyants dans la main d'Abraham. Il y a peut-être si longtemps qu'ils n'avaient pas marché la main dans la main. Et sur leurs deux mains, celle de Dieu qui les sert et qui va aller avec eux dans cette dernière partie du voyage. La fin du chapitre, nous l'avons déjà vu, c'est le sauvetage d'un frère, mais ce n'est pas notre sujet. Nous devons hélas encore passer au chapitre 20 à Guérar, avant d'arriver au chapitre 21. Guérar, je ne lis pas toute la scène. Nous connaissons ce chapitre. Je lis simplement le début de ce chapitre. Ce qui nous intéresse, c'est tout le chapitre. Mais Abraham, verset 1, s'en alla de là au pays du Midi, habita entre Kadès et Shur et séjourna à Guérar. Il dit de Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Et alors au cours de la nuit, dans un songe, Dieu lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. Alors heureusement, Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Alors Abimélec donc plaide sa cause, il est un innocent, il est intègre. Dieu lui répond, verset 6, en songe, moi aussi je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, aussi je t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et maintenant rends la femme à cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Et alors, il y a la défense d'Abraham. Verset 10, Abimélec dit à Abraham, « Qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi ?» Et Abraham dit, « C'est parce que je disais, assurément il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Et il est arrivé lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père que je lui ai dit, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, il est mon frère. Alors Abimélec donc prend du menu bétail, il le donne à Abraham, il lui rendit Sarah sa femme, et Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi, habite où il te plaira. Et à Sarah, il dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. Voici ce cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Ainsi, elle fut reprise. Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec et sa femme et ses servantes. Et elles eurent des enfants, car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. La descente à Guérar, à nouveau vers le Midi. Mais pourquoi quitter Hébron et reprendre la route du Midi, comme on l'avait fait au chapitre 12. Il y a peut-être, oui, une excuse, c'est la proximité de ces villes qui viennent d'être détruites par le feu. C'est pas agréable et c'est gênant, mais ce n'est qu'une excuse. Il ne quittera pas cette fois l'héritage pour entrer jusqu'en Égypte, mais il va entrer dans le pays des Philistins, dans lequel il n'y a pas de crainte de Dieu, et qui seront, la suite nous le montrera, les ennemis héréditaires du peuple de Dieu. Et puis à nouveau, la dissimulation, la même que celle qui avait été dite au Pharaon. Il y a encore là la racine au fond du cœur d'Abraham d'une faute qui n'a pas été jugée, et voilà que cette racine bourgeonne à nouveau. Cette fois, c'est plus grave. La crainte des hommes éclipse totalement devant aux yeux d'Abraham la crainte de Dieu. Et ce ne va plus être la prostitution d'une épouse stérile, mais le risque de profanation du corps de celle qui le sait, qu'elle donnera naissance au fils de la promesse. Combien c'est plus grave. Alors, après avoir donné Agar à Abraham, peut-elle supporter, elle et son mari, que le père de cet enfant de la promesse soit un étranger, soit un philistin, soit Abimélec? Tout ceci nous dit jusqu'où on peut aller dans son égarement si Dieu n'intervenait en grâce. Alors Abimélec, dès la première nuit, reçoit cette menace de Dieu d'un grand châtiment pour lui et pour toute sa maison. Abimélec plaide devant Dieu son innocence et son intégrité et Dieu l'accepte. Dieu l'écoute. Mais il y a quand même une grande délicatesse morale chez Abimélec dans tout ce chapitre. Il va, lui, un homme du monde, faire à l'homme de Dieu des reproches qui seront justifiés. Mais Abraham est un prophète, et c'est Dieu qui va le revendiquer. Il revendique ce titre, comme plus tard, quand Dieu revendiquera ce qu'est le peuple d'Israël devant Balaam. Et nous avons alors la prière d'un croyant étranger qui s'est égaré pour un roi, parce qu'il est prophète de Dieu. Mais après la confession, après le jugement de ma faute, elle est ma femme. La faute enfin confessée, mais combien tard. Nous avons concernant cette scène, en quelque sorte, un verset important dans le premier psaume de David, de la bouche de David lui-même. Je lis simplement ce verset parce que ce psaume existe dans les chroniques et dans les psaumes. C'est le verset 22 de 1 Chronique 16. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous en avons là la réalisation. Mais il y a des choses qui font mal quand même dans ce que dit Abraham. Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Il y a chez lui comme une lassitude. Un homme qui erre au gré de Dieu, comment peut-il parler ainsi après les promesses exceptionnelles qu'il a reçues et la relation privilégiée qu'il a eue? Tu peux rester dans le pays, dira le roi de Guérar. Va-t'en, avait dit le roi d'Égypte. Mais voilà, Sarah, j'ai donné à ton frère 1000 talents pour toi. Ils seront une couverture pour tes yeux. Et c'est le reproche indirect à Sarah. Si, femme mariée, tu avais gardé ton voile, tu n'aurais pas risqué la prostitution. Ce grand respect du mariage, d'un mariage scellé par cet homme qui n'est qu'un homme du monde. Et cette humiliation pour Abraham, qui est allé là-bas à visage découvert. Chapitre 21, c'est le dernier passage que nous verrons. Verset 1, l'Éternel visita Sarah, comme il avait dit, et l'Éternel fit à Sarah, comme il avait parlé. Et Sarah conçut, enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac son fils à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans, lorsque Isaac son fils lui naquit, et Sarah dit, « Dieu m'a donné lieu de rire, quiconque l'entendra rira avec moi. » Et elle dit, « Qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré, et Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac te sera appelée une semence, et je ferai aussi devenir une nation le fils de ta servante, car il a ta semence. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain, une outre d'eau, les donna à Agar, les mettant sur son épaule, lui donna l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla dans le désert de Beersheba. L'eau de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous des arbrisseaux et s'en alla, s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et éleva sa voix et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où elle est. Lève-toi jusque-là. Abraham donne le nom à l'enfant, Isaac. Mais Sarah en interprète le sens, rire. C'est là pour Sarah un rire de joie. La joie d'un cœur qui a été profondément exercé et qui peut dire « Dieu m'a donné lieu de rire ». Isaac peut-elle dire « C'est rire » et j'ai occasion de rire. Il y avait tout au chapitre 17, nous l'avons vu, le rire d'Abraham. Quand Dieu lui avait dit qu'il serait donc père et que Sarah aussi serait mère de cet enfant. C'était un rire d'étonnement plus que de joie. C'était en quelque sorte exprimé par sa bouche « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon incrédulité. » Comme ce pauvre père avait dit au Seigneur. Sa foi est dépassée dans son attente et ce rire est proche du doute, bien sûr. Romains 4 nous dit cependant, il crut avec espérance, ce qui permet que Dieu ne reprend pas le rire d'Abraham. Par contre, au chapitre 18, le rire de Sarah, que nous avons vu tout à l'heure depuis l'attente, était-ce le rire d'une non-informée de la révélation qui avait été faite à Abraham, qu'elle serait mère? En tout cas, c'est le rire du doute, et un rire d'incrédulité. Mais voilà, ce rire de doute et d'incrédulité suffit pour arrêter Dieu qui ne peut pas accomplir la promesse. Tu as ri? Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Et elle reconnaîtra. La crainte de Dieu s'empare d'elle. Et parce qu'elle craint Dieu, la force pourra lui être donnée d'enfanter. La suite, si on peut dire, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la force qui lui est donnée, et c'est Hébreu qui nous le dit. Le rire d'Ismaël ici est un rire moqueur, méprisant pour Isaac. Galates 4, comme nous le savons, va plus loin encore. Il le persécutait. Ce rire moqueur est un rire de persécution. C'est la convoitise du droit d'aînesse. Alors, c'est la parole de Sarah. Chasse cette servante. Elle a la pensée de Dieu. Elle l'exprime avec colère, elle, la femme soumise, mais c'est la pensée de Dieu. Après avoir purifié son cœur, dans le chapitre précédent à Guérard, Abraham doit maintenant purifier sa maison. Il le fera, mais il s'attarde sur des considérations affectives, tellement il est attaché à Agar et à Ismaël. Et c'est le nouveau départ d'Agar. On a un peu comme Abraham, le cœur serré, quand on voit cette servante qui s'en va, qui s'en va. Et Abraham lui donne simplement un peu de pain et une petite outre d'eau. Comment? Après 14 ans de service et plus, 24 ans de service, c'est comme ça qu'on renvoie une servante? Pas même un âne pour porter des vivres? Pas même un serviteur, ils sont si nombreux à la maison. Dans le secret de son cœur, Abraham a une pensée. Avec ces quelques vivres, ils ne pourront pas aller bien loin. Je pourrais peut-être continuer à m'occuper d'eux. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui maintenant va les prendre en charge. La voix de l'enfant monte jusqu'à Dieu. La voix du petit moqueur. Dieu entend les pleurs de ce petit moqueur. mais il est lui aussi, qu'on le veuille ou non, fils d'Abraham. Alors l'ange de Dieu s'approche, et il va s'en occuper. Agar, qu'as-tu ? Lève-toi, relève l'enfant, prends-le de ta main. Et Dieu, à son tour, va tenir la main d'Agar. Hélas, vers l'Égypte, pour trouver une femme, plus tard, à celui qui sera l'ancêtre des Philistins, l'ancêtre des Arabes, ses ennemis héréditaires du peuple d'Israël. Que toute cette histoire est émouvante, que c'est les hauts et les bas de cet homme de foi nous touchent profondément, mais quoi qu'il en soit, combien nous sentons que lui est si haut, et en face de ce géant de la foi, nous sommes, nous, si petits et souvent si misérables.
Abraham, et là, tu avais chacun ramené d'Égypte, en tout cas deux choses. Les deux en accroissement de leur troupeau. Agar, Abraham l'avait ramené. Lot avait ramené l'Égypte dans son cœur. Les conséquences d'un écart. Et chapitre après chapitre, on a les conséquences. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ, certainement. Mais il peut subsister les conséquences sous le gouvernement de Dieu. Comme notre frère l'a dit, quel trouble dans le ménage. Pas de communion, semble-t-il, entre Abraham et Sarah. Surabondance de troupeaux, séparation d'Abraham et de Lot. Et dans le cœur de Lot, c'est l'Égypte. C'est pas le pays promis.
Comme on l'a dit dans l'histoire d'Agar, hein, qu'il y a toujours danger quand l'homme veut prendre en ses propres mains la réalisation des promesses de Dieu. C'est un cas vraiment typique. Parce que finalement, la réconciliation, si on peut parler ainsi de ces deux grandes factions de l'humanité, les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac, n'aura lieu que pendant le règne du Seigneur sur cette terre. 4000 ans déjà nous séparent de cet événement, et cette lutte existe toujours et va en s'intensifier. Seconde leçon, on ne se débarrasse pas si facilement des conséquences d'une faute. Ça a été souligné. Abraham a vraiment tout fait pour essayer de régler la situation. Et ce problème n'est toujours pas réglé. Il y a des années de perdu. Tout ceci à cause de l'impatience, mais soulignons plutôt la qualité, la patience. La patience, c'est une qualité pour des personnalités fortes, des personnalités matures. La patience, c'est une grande vertu. La patience n'est pas là par des faibles, des passifs, des paresseux. Bien au contraire, la patience est une qualité qui est partagée par ceux qui sont forts en Dieu, qui sont actifs. Et on est tous impatients. Vous connaissez cette prière de celui qui est impatient. Dieu, ô Dieu, donne-moi de la patience, tout de suite.
La patience est donc toujours liée à l'incrédulité. Si la foi était réelle et active, eh bien il y aurait la patience. Mais ce qui est beau de l'autre côté, c'est que la foi est liée à la louange. Alors on peut se demander, est-ce que nous louons Dieu pour toutes les promesses qu'il nous donne, toutes les promesses que nous avons dans sa parole ? Et je crois que c'est une bonne chose lorsqu'on peut louer le Seigneur dans son cœur, bien sûr, mais aussi de sa propre voix, dans les cantiques, dans les chants que nous avons de louer le Seigneur. Tout cela, c'est comme une émanation de notre foi. Et je crois que c'est important de le pratiquer, cette louange dans nos vies de tous les jours. Et cela nous gardera d'être patients.
En Hébreux 6, à la patience qui est soulignée de la part d'Abraham, Nous pourrions lire encore directement à notre adresse en Hébreu 10, où il est dit au verset 36e, « Car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. » C'est un verset qui ressemble beaucoup à ce qui est tenu en Hébreu 6, mais qui s'adresse encore plus directement à nous. C'est nous-mêmes qui avons besoin de patience, si nous en avons besoin, c'est qu'il nous en manque.
Une remarque concernant les coutumes de l'époque, pour essayer d'en tirer un enseignement aujourd'hui. On a retrouvé un code de loi, le code d'Hammurabi, qui date de cette époque, un code qui en fait codifie les coutumes de l'époque. Et on trouve dans ce code qu'en effet, une femme stérile pouvait proposer sa servante à son mari pour qu'il obtienne d'elle un héritier mâle. C'était dans la loi. Mais c'est pas parce qu'une loi existe, ou existait à l'époque, ou existe aujourd'hui, qu'on peut s'abriter derrière elle pour faire sa propre volonté. Alors je crois que c'est important de souligner ceci pour les jeunes dans notre pays, la Suisse, par exemple. C'est pas parce que des lois aujourd'hui sont faites pour protéger le concubinage qu'on peut s'autoriser à ce genre de pratique. Ce sont des choses qu'il faut souligner, je crois, auprès des jeunes et des moins jeunes. Parce que cette pratique, on la trouve dans toutes les classes de la population et à tous les âges. Et on pourrait, à première vue, se donner bonne conscience, puisque la loi autorise et protège même. C'est contre la parole de Dieu.
Lui au chapitre 18, notre frère a dit un mot qui au sujet du contact, a dit une phrase au sujet du contact de la communion entre Abraham et Sarah, ou Abraham et Sarah. Et il a dit que Dieu agissait pour accorder les pas de Sarah sur les pas du patriarche. Et je me demande ce que ça signifie pour nous, dans nos couples aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu agit dans chacun de nos couples pour accorder nos pas? On voit qu'Abraham n'avait pas partagé avec Sarah. De nouveau, on pourrait se dire que c'était dû aux coutumes de l'époque. Il faut tâcher de penser à ce que c'était à cette époque-là. Mais je tâche de le ramener à nous. Parce que combien de fois, quelle est la qualité de notre communication à l'intérieur de notre couple? Et comment accorder nos pas? Est-ce que nous prions ensemble tous les matins, tous les soirs? Est-ce que nous lisons la Bible ensemble tous les matins, tous les soirs? Il y a une chose qui est claire, c'est que c'est dans le contact personnel avec Dieu que cette marche en commun, que ce rapprochement des deux peut se faire. Là, il y a Dieu qui se révèle. Elle entend, quand Dieu accorde ses pas, elle entend la révélation que Abraham lui avait probablement pas fait. Et c'est étonnant des fois ce qu'on peut se passer l'un à côté de l'autre, même avec plusieurs, avec des dizaines d'années de mariage, il y a des choses qu'on ne se dit pas, mais qui se disent dans la prière en commun. Il y a tellement de choses qui peuvent se dire dans la prière d'un couple en tâchant de comprendre ensemble la Bible. J'aimerais juste dire, pour des expériences personnelles, c'est qu'en fait, en devenant plus âgé, on a peut-être plus le temps de le faire ensemble. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses. Mais après, on peut le faire ensemble et de découvrir que son épouse peut aussi avoir une idée originale sur un verset de la Bible. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et peu à peu, il y en a même qui disent, elles en ont des fois des plus originales que nous. On apprend l'un de l'autre devant le Seigneur. Et il y a juste ce verset extraordinaire dans Éphésiens 5. Avant qu'il soit mis, ces versets qu'on lit lors des mariages souvent, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur », ne trouvez-vous pas que c'est tellement impressionnant de voir au verset 21 « Étant soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Et alors ce que notre frère a dit tout à l'heure m'a ému, je n'avais jamais pensé à cela, que Sarah, elle a menti, mais après elle a eu peur. Il y a cette crainte qui est venue.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ça n'est pas du tout la crainte l'un de l'autre. Ma femme n'a pas à avoir peur de moi, et moi je n'ai pas à avoir peur d'elle. Alors, mais c'est dans la crainte du Christ, c'est lui qui règne sur le couple. Et on a les deux le téléphone rouge avec lui. On peut les deux parler directement avec lui ou ensemble. Et encore une chose qui est frappante, notre frère a parlé aussi de ces traces qui sont en nous. Quelqu'un l'a dit, quand on a commis un péché, il y a comme une trace qui est en nous, qui reste en nous, qui est en somme un souvenir, qui est un danger continuel. C'est les traces qui restent dans Éphésiens 4:22 de notre ancienne manière de vivre, qui peut être ce qu'on était avant qu'on était amené au Seigneur, mais aussi ce qu'on peut faire dans notre vie, un égarement, et on peut y revenir. Et il semble quand même que dans la famille d'Abraham, il y avait une tendance à mentir. Sarah, nouveau menti, on manipule pour s'en sortir par crainte des hommes. On ment. Et combien de fois par crainte des gens, on ne dit, comme on l'a dit l'autre jour, on ne dit pas toute la vérité, mais ça vaut la peine de le répéter. Et ce qu'il y a de tellement beau aussi, c'est un peu plus tard, quand Abraham, avec Abimélec, a dû dire toute la vérité, a dû confesser son péché. Et ce qui me semble être tellement important, c'est au chapitre 20, au verset 13, c'est « je lui ai dit ». Adam dit, quand il est pris, et quand il y a quelque chose, c'est Ève qui me l'a dit. Tandis que là, c'est « je ». Le moment où on est placé en contact avec le Seigneur a tout fait pour ramener Abraham et Sarah dans cette communion avec lui, mais il fallait que la faute soit confessée. Puis encore une chose dans ce chapitre 20, c'est, on parlait ce matin de l'influence du fait que Dieu veille sur nous. Au chapitre 20, à Guérard, Abraham n'a peut-être plus la communion avec Dieu, et Dieu veut quand même agir sur lui, et Dieu va vers Abimélec. Quelle honte! Il vient vers Abimélec plutôt que de venir vers lui, et il parle à Abimélec. Il lui parle en songe, et puis il lui dit au verset 6, « Je t'ai retenu de pécher contre moi. » On a vu ce que ça signifiait s'il avait péché, notre frère l'a dit, mais « je t'ai retenu ». Dieu est derrière. Vous ne trouvez pas que ça nous met les larmes aux yeux, c'est-à-dire de pécher contre moi, mais aussi de protéger mon serviteur Abraham. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. C'est moi qui étais derrière. Et il dit ça à un incrédule. Puis une dernière chose, la grâce de Dieu, il est prophète et il priera pour toi. Dieu se souvient qu'il est prophète. Comme Job à la fin de sa vie, après avoir dit tout ce qu'il a dit contre Dieu à certains moments, toute sa révolte, mon serviteur Job a bien parlé. Et puis, lui aussi, une des dernières choses qu'il devait faire encore, il devait prier pour ses amis.
Alors nous pouvons lire utilement ces versets bien connus d'un Pierre, ou 3, verset 7. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle, selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Et encore pour reprendre par un verset ce que disait notre frère à l'instant, au verset 10, au milieu, celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude.
Cette petite phrase, « Or, Abraham et Sarah étaient vieux », ceci juste avant, comme on l'a relevé, que, au fond, l'Éternel essaye d'améliorer la communication dans ce couple. Est-ce que nous n'aurions pas facilement la tendance de dire « Nous sommes maintenant trop vieux » pour que les choses puissent s'améliorer dans notre couple? Est-ce que ce n'est pas jusqu'au bout que cette relation, cette communication dans le couple peut être améliorée et que Dieu peut nous aider à cela.
Il y a une chose particulière à propos de Sarah. Donc, lors de la visite de l'Éternel et des anges, chapitre 18, Abraham, verset 11, d'abord verset 10, « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et alors, Sarah dit en son cœur, « Étant vieille, aurais-je du plaisir, mon Seigneur aussi est âgé. » Puis elle rit, rire d'incrédulité. Elle ment, Sarah, nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit, « Non, car tu as ri. » Et donc, dans la période normale, elle aurait un fils. Et il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, tous ces hommes de foi et femmes de foi, « Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. » Ça ne peut être qu'elle estima fidèle celui qui avait promis qu'après la visite, l'assurance qu'elle aurait un fils. Alors est-ce qu'elle avait la foi avant? Ou est-ce qu'elle marchait par la foi d'Abraham? Ce qui expliquerait le manque de communion dans le couple. Ou elle avait une foi très faible, ou Dieu connaît les cœurs, il sait quelle était la vraie foi de Sarah, mais quand même, elle reçut la force, par la foi, elle reçut la force de fonder une postérité. Et ça, c'est après la visite des anges. Donc, ils avaient été ensemble pendant 24 ans, puisqu'Abraham était âgé de 100 ans, sauf erreur, quand Isaac est né.
Et Sarah en avait 10 de moins.
Sarah en avait 10 de moins, oui.
Alors, il faut se représenter la foi qu'il fallait avoir pour croire ce que le Seigneur, l'Éternel, avait dit, parce que le miracle est multiple. Tout d'abord, il leur est promis un fils. Bon, le fait que ce soit un fils et pas une fille, c'est déjà un miracle en soi, parce qu'il y avait une possibilité sur deux. On peut imaginer beaucoup de choses, ça aurait pu être des jumeaux, etc. Non, un fils. Et puis ensuite, Dieu fixe le terme, le temps. C'est pas n'importe quoi. À un temps fixé, je reviendrai, son terme sera là. Et puis, les gens à l'époque ne vivaient pas très âgés. Aujourd'hui, j'entendais un professeur d'université qui parlait de problèmes de procréation. On a enregistré, je crois que c'est en Europe, une femme qui a eu un enfant à 57 ans. C'est l'âge le plus tardif qu'on connaisse dans l'histoire de la médecine depuis qu'on essaye d'enregistrer les choses. Je ne crois pas que les choses étaient très différentes à l'époque. Sarah, 90 ans. Alors, c'est pas pour excuser ce rire, mais on comprend.
Oui, mais elle reçut la force de fonder une postérité par la foi.
Alors il fallait encore amener cette grossesse à terme, à 90 ans.
Oui.
Il fallait aussi.
Mais oui.
Il fallait aussi pour ces deux vieillards, et il fallait une grande foi pour cela. Eux tous deux amortis, refaire lit commun. C'était pas peu de choses. Il fallait vraiment croire en Dieu.
Une question qu'on peut se poser. Au chapitre 15, que l'Éternel promet un héritier à Abraham qui sortira de ses entrailles. Il n'est jamais fait mention de Sarah. Il est dit de ses entrailles. Et c'est seulement après la naissance d'Ismaël, au chapitre 17, que Dieu dit à Abraham que Sarah aura un fils. C'est une question qu'on peut se poser, puisque Marc nous parle justement qu'à l'époque, la loi autorisait à la femme, la vraie, de prendre une servante pour lui faire un héritier. Ici, on dit Abraham n'avait pas de foi. C'est une question que je pose. Est-ce qu'il était vraiment clair, quant à sa foi, qu'il s'agissait bien d'un fils qui viendrait de Sarah?
Paul ne lui dit pas, avant ce chapitre 17, donc après la naissance d'Ismaël, que Dieu ait informé Abraham que Sarah serait la mère. Mais ce chapitre 15 et cette révélation qui lui est donnée par Dieu est quelque chose de tellement intime avec Dieu et dans laquelle il y a une telle hardiesse de la foi
qu'on ne comprend pas pourquoi, à ce moment-là, Abraham n'est pas non plus interrogé l'Éternel. Il lui a répété, il lui a dit que lui serait père. Il n'a pas demandé qui serait mère. Il lui a parlé d'autre chose, mais il ne lui a pas posé cette question-là.
Mais on peut dire que les Juifs et les chrétiens répondent d'une manière à cette question et les Arabes d'une autre manière. Mais il n'y avait pas d'ordre positif, effectivement, mais il y avait un ordre des choses qui existait depuis la création. La polygamie, ou ce genre de situation que Sarah et Abraham rencontraient avec Agar, n'était pas prévu dans l'ordre des choses au commencement. Et je pense qu'Abraham connaissait parfaitement ce que Dieu avait posé comme principe dès la création, avant même que le péché entre dans le monde. Dieu respecte la structure et la nature du couple. Cette leçon va être enseignée à Abraham. Et là, j'aimerais qu'on m'aide parce que je ne connais pas l'hébreu, mais c'est au cours de mes lectures. Le nom d'Abraham a été changé par adjonction au milieu de son nom d'une lettre, H. H, qui est la lettre en hébreu du souffle. On revient à cette question de vie. Mais ce qui est intéressant pour Sarah, ou plutôt Sarai, c'est qu'une petite lettre est enlevée et le plan à l'orthographe correcte, mais notre version non. Parce que dans le plan, Sarah était appelée avec un H à la fin. Une petite lettre est enlevée, Sarai, pour le remplacer par un H. Il y a comme une indication que ce couple fait une seule chair. C'est la même lettre, l'une est ajoutée et puis l'autre est substituée. Mais c'est la même lettre. Moi, je trouve que c'est remarquable, ce petit détail. C'est Dieu qui change de nom d'Abraham en Abraham. Mais Dieu respecte l'ordre du couple, la hiérarchie, si on peut parler ainsi, parce que ça n'est pas Dieu qui change le nom de Sarai. Il dit à Abraham, c'est toi qui l'appelleras. Ce sont des petits détails, mais qui nous montrent combien Dieu respecte ce qu'il a institué dans ce couple modèle, en fait.
Concernant la visite des anges du chapitre 18, un simple sujet de méditation, nous avons vu que l'un de ces anges est en fait le Seigneur, et quelles vont être les différentes relations d'Abraham avec Sarah, par moment, avec la présence du Seigneur. Eh bien, la première partie de notre chapitre, c'est la communion, c'est l'adoration. Puis vient le côté de la communication. Cacherai-je à Abraham ? C'est l'Éternel qui parle. Et puis, la dernière partie du chapitre sur lequel nous ne sommes pas arrêtés, c'est la prière, c'est la supplication. On retrouve, on peut dire, la structure des trois types de rencontres que nous connaissons.
Oui, c'est intéressant qu'en français, ce soit presque la même racine, communion et communication. Et je crois que dans la vie conjugale et aussi dans l'amitié chrétienne, n'est-ce pas, les deux dépendent l'une de l'autre. Sans communion, pas de réelle communication. Sans communication, pas de réelle communion. Et on a aussi déjà employé le triangle comme une image. Le Seigneur est tout là-haut et l'homme est sur l'une des axes, la femme est sur l'autre des axes. De plus, on s'approche du sommet, de plus, on est près l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et il semblerait que pendant toutes ces années, il y eut un problème de communication, et ce qui a engendré aussi un problème de communion. On dirait, mais c'est normal, après tant d'années. Et aujourd'hui, on dit aussi, après de certaines années de mariage, on glisse sur un plan plus ou moins de routine. Mais le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Et quand on pense à ce qu'il a écrit à l'assemblée à Éphèse, ce serait peut-être 40 ans après que cette assemblée ait été fondée, il lui reproche, tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur n'est pas content si nous perdons notre premier amour. Et là-bas, il y a très simplement trois points, n'est-ce pas? Rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es déchu, repens-toi et fais les premières œuvres. Et c'est beau de voir que Dieu non pas seulement nous dit « il ne faut pas perdre le premier amour », mais si nous l'avons perdu, eh bien il y a ces pas simples et clairs qui nous indiquent comment le premier amour peut être regagné.
Concernant cette absence de communication entre mari et femme, j'aimerais lire un verset qu'on ne lit pas en général dans ce contexte. Proverbe 29, 25, « La crainte des hommes tend un piège,
Bien sûr, on a vu Abraham, il avait peur des Égyptiens et d'Abimélec. C'était la crainte des hommes qui lui a tendu le piège de dire un mensonge. Mais dans la relation du couple, il y a aussi parfois la crainte de se livrer. On craint la réaction de son conjoint et à ce moment, on préfère se taire. Eh bien, la parole ne nous recommande pas d'avoir la crainte des hommes. Elle dit, ça nous tend en piège. Donc, le piège ici, c'est l'absence de communication avec son conjoint. Alors, il faut demander à l'Éternel de nous donner de vaincre cette crainte que nous pouvons avoir vis-à-vis de la réaction de notre conjoint et lui dire ce que nous avons sur le cœur.
En tout cas, nous désirons tous probablement être des Aquilas et des Priscilles, lui nommer trois fois le premier, elle trois fois. Il y avait certainement une harmonie selon Dieu, en regard des circonstances et des choses de tous les jours.
Peut-être encore attirer l'attention aussi sur notre point C, sur le plan, verset 12, « Enfin la confession du mensonge, alors Dieu peut donner Isaac. » C'est solennel. Dieu n'a pas voulu attendre si longtemps, si on peut ainsi dire. Naturellement, toutes ces années ont été des années d'épreuves et nous voyons qu'il y a eu la foi quand même démontrée. Et quand on pense que c'est le Dieu de gloire qui avait apparu à Abraham, quelle vision, quelle révélation! Et ce Dieu aurait voulu prouver à Abraham qu'il veut lui donner bientôt cette postérité, ce fils. Et c'est ce pas d'aller en Égypte qui a fait que Dieu n'a pas pu donner ce fils. Et cela n'a-t-il pas déshonoré Dieu? Nous pouvons penser aux côtés d'Abraham et de Saraï, combien longtemps ils ont dû attendre, combien d'années ils auraient plus pu jouir de ce fils. Mais ce Dieu de gloire qui voulait se révéler glorieusement même en donnant ce qu'il avait promis, n'a pas pu le faire. Est-ce qu'il y a chez nous des mensonges cachés? Eh bien, Dieu aimerait nous bénir, mais Dieu ne peut pas nous bénir quand il y a du péché caché, non confessé. Et je trouve que c'est tellement solennel.
Concernant l'ange de l'Éternel, au chapitre 16, qui va trouver Agar près d'une fontaine d'eau dans le désert qui est sur le chemin de Shur. Et le plan que nous avons nous dit confronter six charges en quatre. Je trouve que ce parallèle est très beau. Dans Jean 4, Jésus, fatigué et lassé du chemin, va faire une rencontre qui, par ses conséquences, va être d'une grandeur inestimable. Et pour cette pécheresse, et pour ceux qui, dans la suite, trouveront l'application concernant ce que Dieu attend des adorateurs qu'il s'est cherché. Une fontaine, quelque chose qui va rafraîchir le cœur. Et ici, dans cette fuite en avant, comme cela nous a été rappelé sans savoir où elle va aller, l'ange de l'Éternel la trouve. Ne pensez-vous pas que lorsqu'il peut y avoir des confrontations, des problèmes, des difficultés, d'ordre différent, des malentendus, ne pensez-vous pas que individuellement dans un couple, et Dieu veut qu'il en soit ainsi ensemble, on se retrouve, Dieu nous trouve plus exactement, dans sa lumière et auprès d'une fontaine où il va probablement sans aucun doute rafraîchir nos cœurs qui étaient altérés et qu'on trouvera dans cette présence inattendue, mais que, tant assuré que Dieu d'en haut, c'est tout ce qui se passe dans nos vies, à un moment choisi par lui. Eh bien, son désir dans l'amour qu'il a pour tous ceux qui lui appartiennent sera de venir leur apporter une parole d'exhortation, de consolation et de rafraîchissement.
Pour dire un mot concernant Agar, parce qu'il y a une leçon et ça m'a beaucoup encouragé. Cet Agar était responsable en partie du conflit parce qu'elle a péché par orgueil, elle a méprisé sa maîtresse. Alors, quelle est la solution pour apaiser les parties qui sont en plein conflit. Quelle est la solution pour rétablir, dans la mesure du possible, une situation? Je crois que nous l'avons dans le chapitre 16, au verset 9. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'humiliation est une grande chose pour rétablir des situations, apaiser des querelles. Et c'est une vérité que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Un verset encourageant parce que on peut craindre dans nos assemblées des conflits, des disputes, des discussions. Quelle est la solution? Parce qu'on pêche tous par orgueil. Eh bien, 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant